Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La guerre des tétons, c'est le nom de cette lutte contre la maladie et la course contre la montre avec son corps pour adversaire. C'est la lutte de plus d'une femme sur huit en France, car le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Mais c'est aussi le nom de l'ouvrage de Lillison, diagnostiquée à 29 ans de ce même cancer. Elle en parle dans sa BD avec ses mots à elle, qui résonnent chez de nombreuses personnes. « Je ne veux pas qu'on me regarde avec des yeux de petit chat, je n'ai pas besoin de pitié, mais plutôt d'énergie cosmique. » L'épisode d'aujourd'hui est très spécial. Je vous présente ma belle-sœur, Manon, dont la vie a basculé à 27 ans. Elle est certainement la personne la plus résiliente, bienveillante et combative que je connaisse. Il ne m'en fallait pas plus pour lui demander de dévoiler cette partie très intime de sa vie, la maladie. Et peut-être comme moi, Manon deviendra votre idole. Bienvenue dans le deuxième épisode de The Raccoon Club.
Let's mention boobs, the war on women's breasts.
Number one cancer in women, breast cancer, is regulated by estrogen and by this enzyme aromatase.
Women are not just men with boobs and tubes.
Le dépistage, faites-le, c'est gratuit et les nouveaux traitements changent la donne. Priatan, on guérit du cancer du sein.
Aujourd'hui, je reçois un invité spécial. Ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est ma belle-sœur. Oui, je vous présente Manon. Bonjour Manon.
Bonjour.
Alors Manon, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux te présenter ?
Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Manon. J'ai bientôt 30 ans, donc 4 jours.
Oh my god.
J'habite à Arles, dans une petite ville dans le sud de la France.
On y est d'ailleurs.
Où
très
on est
jolie,
tout
on
à
est
fait.
Chez elle.
Tout à fait. Je suis restauratrice.
Ouais, vous avez un
petit resto. On est en famille.
Moi, je trouve que c'est le meilleur restaurant à Arles, mais c'est très personnel comme, comme suggestion. On va pas s'éterniser sur le côté professionnel, puisqu'il n'y a pas que ça dans ta vie, Manon.
Oui.
Il y a tellement de choses. Ce qui est un peu quand même chouette, c'est que vous êtes ensemble avec un jeune homme, qui est mon beau-frère, que j'aime beaucoup, si tu nous entends. Depuis maintenant combien de temps ?
13 ans.
13 ans, quand on a 30 ans.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Et c'est trop chouette parce que du coup, vous avez grandi ensemble, vous avez vécu presque toute une vie déjà ensemble.
Oui.
Et lui, donc, du coup, n'était pas du tout dans la restauration.
Absolument pas. Non, lui, c'était les chiffres.
Les chiffres.
Voilà. Donc, lui, pas du tout. Ouais. Il était dans la compta, la gestion. Donc, c'est vrai qu'une vie de couple, quand une personne est en restauration, il est un peu...
Ouais, vous êtes un peu en décalé.
Décalé. Mais on avait la chance d'avoir nos week-ends, donc c'était chouette.
D'accord.
Et ça n'a pas du tout remis en question voilà, notre avenir à deux, quoi.
D'accord. Et donc, tu vivais une petite vie, somme toute, chouette, avec tes copains,
tout à fait.
Ta famille, le resto, ton chéri et ton chat.
Tout allait très très bien. Alors, un jour, j'ai senti dans mon sein droit... une petite, je dirais, une petite boule, hein, un sein un peu dur, mais j'en ai parlé à personne. Je l'ai un peu gardé pour moi, mais je pense que c'était un peu inconscient de se dire, bon, c'est rien, quoi. Moi, j'avais 27 ans, donc on pense pas du tout à ce qui peut...
Ouais, tu l'as senti, mais tu t'es pas... T'as pas pensé une seule minute que c'était pas normal et que du coup c'était...
Non, vraiment, grave. Vraiment pas.
Ouais.
Et un soir, donc avec Maxime, mon chéri, on s'est couché et lui, vraiment sans aucune arrière-pensée, je tiens à le préciser, m'a dit bonne nuit et a mis ses mains sur mes seins en fait.
Oui, parce que c'est comme ça qu'on dit bonne nuit. C'est comme ça qu'on dit bonne nuit dans le sud de la France.
Voilà, exactement. Et il a touché. Mais c'est bizarre, c'est tout dur et tout. C'est étrange quoi. Enfin.
Et ça faisait longtemps que tu t'en étais aperçue entre ce moment-là.
Mais j'arrive pas trop à déterminer. Je suis assez floue dans cet espace-temps, j'ai pas trop de...
Tu te souviens plus?
Non,
trop.
Je me souviens plus, je pense peut-être un mois et demi.
Pas si longtemps au final.
Pas si longtemps, non. Donc il prend la chose vraiment à cœur, on peut le dire. Hein. Moi j'étais vraiment... Mais non, c'est rien, t'inquiète pas. Il me dit non, non, demain tu vas prendre rendez-vous chez le médecin et tu leur demandes au moins qu'elles te disent ce que c'est entre guillemets, quoi.
Oui, parce que ça peut être... Au final, n'importe quoi.
Ça peut être n'importe quoi.
C'est marrant que ce soit lui.
Oui, mais c'est ça qui est beau aussi, quoi.
C'est ça qui est beau. Mais alors, toi, t'es de nature déjà très détendue.
Oui.
Même si, bon, on a tous nos moments de stress. Mais de caractère, t'es pas... Je sais que t'es pas là à t'alarmer pour rien.
Oui.
Mais quand ça te concerne, encore moins. Donc,
oui.
Trop bizarre.
Oui, 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 vraiment. Hein,
Donc, du coup, c'est un peu fou que ce soit lui qui soit presque obligé de te dire...
Tout à fait.
Va te faire consulter, s'il te
plaît. Et puis, il me pointe du doigt en me disant, il faut y aller, quoi. Donc, je l'écoute parce que je suis aussi de nature à écouter les gens et à vouloir rassurer. Donc, je vais forcément... Donc, le lendemain, je prends rendez-vous chez le médecin. Bien
à
sûr,
Arles.
À Arles, j'ai rendez-vous 2-3 jours après, hein. Pour moi c'est pas une urgence.
C'est ton médecin traitant?
C'est mon médecin traitant, elle me touche le sein, elle regarde, elle me dit bon, je lui explique hein, ce que je ressens, que j'ai l'impression d'avoir un poids au niveau du sein droit. Et elle me dit, bon écoutez, ne vous faites pas de soucis, je vous prescris une pommade, ça doit être un kyste, donc ne vous inquiétez pas.
Est-ce que c'est la majorité du temps, c'est le diagnostic que les médecins font?
Je
pense... Quand tu sens une masse comme ça
En tout cas, je pense qu'on ne donne pas forcément une écho.
Ok, c'est pas systématique.
Voilà. Je pense qu'il faut, si on a vraiment un gros gros doute, il faut la demander.
Ok, soi-même.
Soi-même.
Ah, c'est...
Donc, ouais.
C'est dommage.
Après, elle me l'a prescrit.
T'es tombée sur
je pense que
The Good One.
Ouais. Ouais, ouais. Mais j'ai entendu des jeunes filles qui ont dû vraiment demander plusieurs fois avant d'avoir une échographie. Donc, il ne faut pas hésiter si on a un doute. Il faut un peu insister. Voilà.
D'accord. Donc, elle te prescrit une écho.
Donc, elle me prescrit une écho. Forcément, on est toujours sûr, ce n'est pas une urgence. Donc, je prends rendez-vous, mais forcément, c'est 15 jours après, quoi.
Oui, parce que c'est... Arles aussi, et que
tout à fait. C'est pas une grande ville. Et puis moi, je m'acharne pas à appeler plein de centres de radiologie. Je vais au centre où je vais d'habitude, quoi. Donc je prends rendez-vous et voilà, 15 jours se passent. Et le matin où j'ai rendez-vous, donc pour mon écho, la vie va bien, quoi. Pas du tout de pressentiment ou de... Non, non, non.
T'étais pas stressée?
Pas du tout. Et donc, je me rends au centre de radiologie. Forcément, on attend pas mal là-bas. Donc, je commence un petit peu à cogiter, mais sans plus. Et la radiologue me prend dans son cabinet. Hein, et pourquoi vous venez? Donc, j'explique. J'ai l'impression d'avoir un kyste au niveau du sein droit. Ok, d'accord. Allez, c'est parti, quoi. Et là, un gros blanc. Donc, elle avait des yeux un peu... Enfin, on sentait qu'elle était assez soucieuse, quoi. Elle parlait pas, elle était très...
D'accord.
Un peu fermée, enfin, les traits assez soucieuses, quoi.
Ok.
Et pendant 5 minutes, elle regarde. Donc là, je commence à me dire, bon, ça sent pas bon.
C'est long, ouais.
Donc je lui dis, est-ce que vous pensez que c'est un kyste? Elle ne me répond pas vraiment.
D'accord. Est-ce qu'elle a moyen de le savoir directement, elle, sur l'échographie?
Je pense qu'il le voit.
Ok.
Mais un radiologue n'a pas le droit de poser de diagnostic.
Ah, c'était ça le problème.
Surtout pour ce genre de choses. C'est D'accord. pas eux qui vont t'expliquer ce que tu as. Eux, ils sont juste là pour faire l'examen.
et après que le médecin l'interprète.
Tout à fait, donc, exactement.
Ok, donc elle, elle savait qu'il y avait quelque chose, mais elle ne pouvait pas te le dire.
Exactement.
Ok.
Mais elle se lève, sort de la pièce, me dit je reviens dans 5 minutes, vous allez faire une mammographie. Donc là, je commence à voir les jambes qui...
Enfin, tu t'attendais pas à
ça. Je m'attendais pas à ça. Donc je vais dans la pièce à côté, je fais une mammo. Et là, la préparatrice, enfin la dame, c'était une autre dame qui s'est occupée de moi. Et commence à me poser des questions un petit peu étranges, qui me mettent un petit peu la puce à l'oreille. Mais j'étais toujours dans le déni. Enfin, jamais j'aurais pensé encore à ça, quoi. Et elle me demande s'il y a eu des antécédents de cancer du sein dans ma famille, si je suis enceinte, quelle pilule je prends. Enfin, voilà, des questions...
qui sont importantes quand on diagnostique, si on veut diagnostiquer quelque chose.
Tout à fait. Et elle me laisse dans la pièce, donc toute seule.
Un très bon moment.
C'était, ouais, c'était
un très bon moment avec soi-même.
C'était horrible. Heureusement, il y avait une petite chaise sur laquelle j'ai posé mes fesses. Et je pense que ma maman a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait pas très bien.
Elle n'était pas avec toi.
Elle n'était pas avec moi. Je suis allée au rendez-vous toute seule. Elle n'était pas très loin. Elle est bénévole au Resto du Cœur. Et elle a tout quitté et elle est venue en fait. Elle m'a dit, je suis dans la salle d'attente. Donc moi, dès que j'ai vu son message, je suis allée la chercher.
Tu lui avais pas dit entre la radio et enfin entre l'écho et la mammo, tu lui avais pas dit quoi que ce soit.
Non non non.
Elle l'a senti.
Elle a senti, ouais, je pense, parce que ça mettait quand même du temps.
Ok. Elle s'est inquiétée.
Et je pense qu'elle s'est inquiétée et donc du coup elle m'a rejoint dans la salle où j'étais et on a tout de suite toutes les deux compris qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que c'était pas normal que ça prenne autant de temps, qu'il y ait autant de gens qui soient autour de moi pour une écho basique, quoi. Et en fait, la radiologue est arrivée avec, du coup, pas de diagnostic parce qu'elle ne peut pas en donner. Mais elle m'a dit tout de suite, bon, je pense que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez aller dans un hôpital pour faire une biopsie.
Ouais.
Voilà. Et donc, du coup...
C'est terrible de ne pas pouvoir en dire plus. Je pense que ça doit être très dur pour
eux,
pour vous, mais et aussi pour eux.
Pour
parce
eux,
que...
oui. D'annoncer quelque chose comme...
Très flou.
C'est très flou, exactement. Et donc, cette radiologue avait des contacts sur l'IPC à Marseille. Et elle a tout de suite pris rendez-vous. Elle a été géniale parce qu'elle a été très, très, très réactive. Et 24 heures après, j'étais à l'IPC, quoi.
L'IPC, c'est...
Donc, c'est l'Institut Paoli Calmette sur Marseille qui est spécialisé dans le cancer.
Ok.
Pas forcément le cancer du sein, hein, c'est tous les cancers. C'est une institution, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, de la région où quand on est malade, on se redirige parce que c'est un endroit qui est très réputé pour guérir. Et,
d'accord.
Voilà.
Donc 24 heures plus tard, vous prenez la voiture et vous faites la route jusqu'à Marseille.
Tout à fait. Et là, on fait la biopsie. En fait, moi, j'étais allongée dans une pièce et puis on prend une aiguille et on va aller chercher dans la tumeur. On fait le prélèvement et on va chercher dans la... Donc, tumeur, mais qui, pour l'instant, on ne sait pas.
Mais on t'avait dit le mot tumeur déjà avant ça ?
Non, 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 non.
On t'en a parlé quand t'es arrivée à l'IPC ?
Non,
même pas.
On dit rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la biopsie qui, si tu veux, qui va mettre le point final.
D'accord.
Au mot tumeur, au mot cancer, parce que tant que la biopsie n'est pas positive, hein, on ne dit pas, le mot cancer.
Donc le dernier examen, c'était la biopsie.
Oui.
Pour avoir un diagnostic.
Voilà, complet. C'est ça. D'accord. Et c'est la biopsie qui va donc déterminer quel type aussi de cancer tu as.
D'accord. Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en termes de résultats après la biopsie ?
Donc, une biopsie, normalement, c'est bien 2 semaines d'attente.
Oh yes ! Super !
Mais là, on me dit, vous avez les résultats dans 48 heures. Ah, donc je sens, c'est plein de petits indices qui me montrent qu'il y a urgence, entre guillemets, parce que dans ma famille, il y a eu des cancers du sein et je sais un petit peu comment ça se passe.
Et tu le savais ?
Qu'à ce moment-là ?
Est-ce que tu t'avais vécu directement des cancers du sein dans ta famille ?
Alors,
on te l'a raconté plus tard ?
Voilà, on me l'a raconté plus tard parce que ces cancers-là, c'était ma grand-mère, j'étais très très jeune. Et la sœur de ma grand-mère, donc ma grande-tante, et elle, pareil, c'était il y a plusieurs années. Donc, je ne l'ai pas vécu directement,
Mais tu t'en souvenais pas au moment où tu as fait tes diagnostics.
Non, non, pas du tout.
Donc tu pouvais pas parler de tes antécédents parce qu'en fait tu les connaissais pas trop.
Voilà, exactement. D'accord. Et puis du coup, 48 heures après, le résultat tombe et c'est bien un cancer du sein. Donc en fait, en l'espace de, on va dire, une petite semaine, même pas 3-4 jours, ta vie est chamboulée quoi.
Tout part.
C'est une tornade.
Tout part en chocobon.
Ah ouais, vraiment. J'ai fait une biopsie, mais j'ai aussi fait un TEP scan. Donc c'est comme un IRM, un scanner, où en fait on va aller voir s'il y a d'autres tumeurs ailleurs.
D'accord.
Voilà, donc c'est aussi un examen qui est très important. Moi, à l'IPC, ils n'avaient plus de place, donc ils ont cherché un centre où ça pouvait être fait rapidement, parce qu'on ne peut pas commencer une chimiothérapie tant que cet examen n'est pas fait. Et donc je suis allée à Toulon pour le faire. Et ce n'était que dans le sein.
D'accord.
Donc vraiment, il y a un parcours médical qui est très, très, très intense pendant une à deux semaines, quoi.
Tu fais que ça, finalement.
Tu fais que ça, oui. Et des rendez-vous à l'appel donc à l'IPC. Comme c'est un centre où tout est sur place, c'est ça qui est génial, j'ai pu donc rencontrer tous les médecins... qui ont été super. Enfin, moi, je suis très, très contente de mon suivi là-bas. Vraiment, ça a été une prise en charge qui a été extrêmement rapide parce que je suis jeune et qu'un cancer, quand ça touche les jeunes, ce qu'ils appellent les AJA, c'est les jeunes adultes, en fait, la prolifération est très rapide. Donc, il faut aller très vite.
Mais ce qu'il faut mettre dans un contexte, c'est que tu étais extrêmement jeune. Et pas du tout la candidate
idéale.
Avoir un cancer du sein. Donc j'imagine que les médecins aussi devaient pas être sereins de l'annoncer.
Oui, c'est ça. Après, bon, c'est vrai qu'ils ont l'habitude. Mais c'est vrai que quand j'étais à l'IPC, je voyais très, très, très peu de jeunes filles ou de jeunes garçons de mon âge. Et je pense qu'ils sont formés. J'espère pour eux qu'ils ont aussi...
On espère qu'ils sont formés. Et qui ne s'entraînent pas devant un miroir le matin.
C'est ça.
Et alors, est-ce que tu peux me dire, à ce moment-là de ta vie, comment toi tu te sentais, quels étaient les projets en cours et qu'est-ce que cette nouvelle a changé du coup dans tes projets de vie à ce moment-là?
Du coup, ouais, on est en 2018. Donc le projet de l'année, c'était de me marier.
Oui.
Donc ça, c'était vraiment le grand projet qu'on avait avec Max. C'est assez vite devenu une évidence qu'on allait annuler.
D'accord. Donc vous avez annulé ton diagnostic.
Tout à fait. Maxou dirait non, on n'a pas annulé, on a reporté. C'est très important et il a raison de le dire. Oui. Mais voilà, c'est assez vite été évident qu'on n'allait pas se marier dans ces conditions-là, surtout pour moi.
Non, c'était se concentrer sur ta santé.
Sur ma santé, tout à fait. Et puis quand même, je commençais un parcours très très long.
Est-ce que tu savais un peu le parcours que tu allais avoir? Est-ce qu'on te l'a expliqué?
Oui, on m'a très très bien expliqué dès le jour J, hein, le jour où on m'a annoncé que c'était un cancer du sein. Donc on m'a expliqué quel type de cancer j'avais, parce qu'il y en a beaucoup.
Alors
donc,
c'est lequel?
Voilà, donc moi c'est un cancer qui est hormonal, donc lié aux hormones. Donc ça induit plusieurs protocoles. Hein. Après, ils font en fonction de l'âge, en fonction du type de cancer, etc. Je pense aussi à la taille de la tumeur, etc.
Est-ce que la tienne, elle était plutôt grosse?
Oui, elle était grosse. Elle faisait 6 cm sur 7.
Oui,
presque une boule de pétanque, en fait. Et c'est pour ça qu'il l'a senti, Max.
Ça, c'est ton côté sud de la France.
Voilà, c'est ça. Comme ça prolifère vite, en fait, ça grossit vite.
Bien sûr.
Donc, c'est pour ça qu'il faut aller vite. Et donc, cancer hormonal veut dire aussi un protocole strict. Voilà, okay. C'est le protocole à suivre. Et puis, donc pour moi, c'était chimiothérapie.
D'accord.
Avec 4 séances d'une chimiothérapie qui s'appelle la FEV, F-E-V.
Ok.
Puis 12, je ne sais plus le nom, tant mieux, de chimiothérapie. Donc là, plus douce.
D'accord.
Donc on commence par 4 très intenses.
D'accord.
qui sont séparés de 2 semaines.
D'accord.
Donc là, forcément, bah, on perd ses cheveux, on a des les ongles qui deviennent un peu noirs, on a des effets secondaires, on a des aftes dans la bouche et tout. Enfin bon, bref, c'est la merde, quoi.
Parce que t'as commencé la chimiothérapie directement après le diagnostic.
Oui.
C'est
oui,
immédiat.
Oui. Ouais. Pour mon protocole, c'était chimiothérapie, opération et radiothérapie.
Ils viennent de te donner un peu ton planning de ce que va devenir ta vie pour les prochains mois. Comment, une fois que toi, tu as cette information, on l'annonce à ses proches ?
Bah, c'est forcément, c'est dur.
À l'IPC, tu étais avec Max ?
J'étais avec Max et ma maman.
Okay.
Ça a été mes deux petits soldats. Mon papa, lui, travaillait, en fait. Donc, il pouvait pas venir et je pense qu'il n'était pas très à l'aise avec ça.
Oui, bien sûr. Peut-être que c'est plus compliqué pour certaines personnes.
Tout à fait.
Mais du coup, ils l'ont appris. Du coup, donc, ta maman et Maxou l'ont appris en même temps que toi.
Tout à fait.
Ils étaient dans la même pièce.
Oui, mais on l'avait déjà un petit peu compris à Arles quand j'étais dans le centre de radiologie où là forcément bah, on pleure tous, hein.
D'accord.
On est désemparés par la nouvelle. Suite à ça, je vais au restaurant où je travaillais, qui s'appelait Les Filles du 16, où il y avait ma sœur et mon papa et là...
Ça a annoncé la nouvelle.
J'annonce et puis c'est les bras tombants, quoi. On est désemparés face à la situation.
Et comme vous êtes aussi, je resitue peut-être un peu le contexte, parce que moi je vous connais un peu de l'intérieur, mais vous êtes une famille très soudée et très, très unie et vous vous aimez beaucoup. Et je pense que je vois pas comment on pourrait réagir autrement, en fait.
Oui, c'est ça, oui. On est dans une situation où on ne sait pas vraiment quoi faire aussi, comment réagir pour certains. On se réunit beaucoup, on passe du temps ensemble.
C'est ce dont tu avais envie à ce moment-là aussi ?
Oui. Être entourée de mes proches. Voilà, j'appelle ma meilleure amie, je l'ai au téléphone le jour J et je lui dis quoi. Et forcément, la réaction de tout le monde est assez...
T'as l'impression que tout le monde l'a vécu un peu différemment ?
Oui, je pense. Oui. Mais pas sur l'instant présent, parce que sur l'instant présent, tout le monde est forcément triste. Mais après, sur la longueur, oui.
D'accord.
Par exemple, Maxime, ça a été le protecteur, celui qui voulait gérer, c'est lui qui...
Il était sur le front.
Sur le front. Ah oui, c'était pas Manon à un cancer, c'était on a, quoi.
Bien sûr.
Donc il était vraiment là. Ma maman, elle était protectrice.
On est bourré, hein. On a bu du liquide vaisselle. Sachez que... Non, pas du tout, on boit du thé.
Bon, vous aurez compris, quoi. Le papa, je dirais, lui, c'est la force, c'est ma puce.
On est là.
On est là, tu vas y arriver.
Mais t'avais quand même un petit bataillon derrière toi.
Ah oui. Et ma sœur, qui était un peu plus... discrète, parce que ma sœur est quelqu'un de discret, mais qui a toujours eu les mots pour me faire du bien. Et j'avais, pendant du coup, tout le processus où moi, du coup, je ne travaillais plus.
Oui.
Et le resto tournait toujours. J'avais mes petits messages le soir avant d'aller faire dodo. Et elle me disait qu'elle était bien rentrée à la maison, parce qu'elle travaillait le soir. Et ça me faisait du bien aussi de faire partie un petit peu
de la vie quotidienne.
Quotidienne.
Parce que du coup, le processus de chimiothérapie commence, donc tu es obligée de t'arrêter de travailler.
Moi, j'ai décidé d'arrêter.
J'imagine que c'est assez compliqué de jongler avec les deux au bout d'un moment.
Tout à fait. Généralement, les gens s'arrêtent. Après, il y a différents types de chimio. Il n'y a pas un protocole, il n'y a pas une chimio. Effectivement, la mienne, donc il y avait deux chimios, si on peut appeler ça comme ça. Donc la première qui était très intense, où c'est là où en fait on tue tout, quoi. Enfin,
donc ça c'est une toutes les 2 semaines. Il y en avait quatre.
Oui, il y en avait quatre toutes les 2 semaines.
Et tu l'as vécu comment ?
Celle-ci était quand même compliquée parce que t'as vraiment tous les effets secondaires qui sont, enfin c'est les plus durs. Enfin tu vois ton état se dégradé entre guillemets, mais tu sais que c'est pour ton bien, alors c'est un peu étrange, puis ça te rend malade. Donc pendant 2-3 jours t'es vraiment dans le cosmos total, donc voilà, j'étais sur mon canapé et puis je patientais
jusqu'à la prochaine.
Bon, généralement au bout d'une semaine ça allait mieux, hein. J'ai quand même plutôt bien vécu, j'ai fait beaucoup d'homéopathie. Voilà, donc
pour toi ça a marché.
Pour moi ça a marché, j'ai été vraiment suivie. J'ai quand même continué un petit peu à aller au restaurant. Donc ça a été quand même mon petit peps de la journée, c'est-à-dire que bon, bien sûr pendant les 3-4 jours où j'étais pas bien, je n'y allais pas, mais dès que je sentais que j'étais bien, j'allais passer une heure ou deux là-bas, ça me faisait du bien, tu vois, j'avais ce côté un petit peu pas rester à la maison toute seule, non, allez, je sors et j'y vais, quoi.
D'accord.
Donc ça, c'est la chance que j'ai eue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail juste pour une heure ou deux,
bien
tu vois.
Sûr.
Moi, c'était ma famille, donc je pouvais y aller, donc ça me faisait du bien. Et après, j'ai eu 12 séances.
À combien d'écart chaque
séance ? Une semaine.
Donc là, c'est encore plus rapproché.
Encore plus rapproché. Cependant, ce sont des chimios qui sont beaucoup moins fortes.
D'accord.
Donc là, pour le coup, j'avais pas du tout ces effets mal au cœur, de vomissements, de nausées. Ça pouvait arriver, mais généralement, je les vivais quand même très bien. Il y avait d'autres... En fait, pour chaque chimio, il y a
Des effets.
Il y a des effets.
Parce qu'on peut le dire, tu as quand même... Bon, c'est le parcours classique, mais tu as perdu tous tes cheveux,
les sourcils, les cils,
les ongles.
Alors, je les ai pas perdus, cependant, j'avais les ongles noirs.
Ouais.
Voilà, donc je mettais du vernis.
C'est un des effets
ouais,
de la chimio.
Après, j'avais des aphtes dans la bouche.
D'accord.
Bon, après, chaque personne a des effets différents, hein, parce que c'est pas parce qu'ils te disent que tu vas avoir ça que tu l'auras.
Joe Cocker se joint à la discussion. Bonjour.
Je pense qu'il patoune dans le thé.
Il se dit oh non, tata. Une fois que tout ton planning de traitement est passé, on estime que ça se passe sur combien de temps à peu près toutes ces chimios ?
Alors ça a duré. Donc la chimio, ça a été 6 mois. Ensuite, ils m'ont laissé un petit peu tranquille pendant un mois. J'ai eu l'opération et pareil, ils m'ont relaissé tranquille un mois. Et après, j'ai eu 5 semaines de rayons. Donc ça fait à peu près entre 8 et 9 mois de traitement.
Alors, on va parler de l'opération.
Oui.
Donc, il y a ce traitement de la chimio, mais il y avait donc aussi, on t'avait prévenu qu'il allait falloir enlever la tumeur, mais du coup... aussi enlever le sein, ça s'appelle une mastectomie. Est-ce que tu avais le choix ?
À vrai dire, j'ai pas posé la question, mais je pense sincèrement que non.
Voilà.
Je pense pas, parce que bon, pour le coup, ma tumeur était quand même très grosse. Pour moi, c'est une évidence d'enlever. Ouais, parce que j'aurais eu trop peur que. Ça recommence, en fait. Après, je connais pendant tout mon parcours médical, quand même, j'ai rencontré des jeunes filles, dont une avec qui on se voyait de temps en temps pendant nos séances de chimio. Donc, c'était cool parce qu'on ne se sent pas tout seul, quoi.
Ouais, c'est bien, ça.
Ouais. Et elle, pour le coup, sa tumeur était plus petite et elle a demandé à faire une tumérectomie.
Donc, on n'enlève que la tumeur.
Donc, on n'enlève que la tumeur. Malgré qu'il lui ait conseillé, si on peut dire ça comme ça, une mastectomie. Donc on a quand même le choix. On n'est pas contraint et obligé de le faire. Cependant, après, c'est propre à chacun. Moi, jamais j'aurais pris la décision qu'elle a prise. Enfin,
je pense que toi, tu avais juste envie que ça s'arrête et de ne pas y revenir. Donc, je pense que tu as pris la décision la plus
radicale.
La plus radicale et la plus conseillée par ton équipe médicale.
Voilà.
Donc, aujourd'hui, on t'a enlevé la tumeur et le sein qui va avec, c'est le sein
droit.
Et le sein gauche, lui, va bien.
Oui, il m'a fait des petites.
Il a fait des petites blagues, on va revenir cet
en
été.
En vrai, mais sinon, non, oui, il va bien.
C'était que celui-ci. Donc, oui. Du coup, après la chimiothérapie, on t'a laissé tranquille pendant un mois.
Voilà.
Et ensuite, arrive l'opération. Oui. Et l'opération, il me semble, tu as fait des cascades.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous raconter, bien du sûr, coup, l'opération?
Oui. Alors, bon, déjà très heureuse d'avoir arrêté la chimio.
Oui,
un mois de vacances. Donc, je répète bien, dans mon cas, c'était ce protocole-là, mais ça peut être inverse. On peut faire une opération, ensuite une chimio, ensuite... voilà, donc je ne suis pas l'exemple de protocole, mais voilà. Donc, dans le mien, c'était ce parcours-là. Donc, l'opération, c'est... plutôt bien déroulé. Hein.
Ah bon?
C'est le après qui n'était pas très chouette.
Combien de temps ils ont mis à t'opérer?
Je crois, dans mes souvenirs, je crois que c'était 2 heures.
D'accord.
Je crois. C'est assez court, hein. C'est pas une opération qui dure des heures et des heures.
Il me semble que tu as attendu quand même assez longtemps. C'était ça surtout qui était compliqué. Tu as attendu beaucoup avant qu'ils viennent te chercher.
Oui, j'ai attendu. Après, sincèrement, j'étais à la cool de ouf.
Toi, tu voulais juste...
Ah ouais, j'étais trop contente en fait. Mais vraiment.
Oui, parce que je pense que par rapport à tout ce que tu avais vécu dans les mois précédents...
Ouais, c'était la libération en fait. De me dire que ça y est, la tumeur, elle va plus être en moi.
T'es de bonne composition quand même. Parce que
j'ai pas pensé je pensais pas au fait qu'on m'enlève mon sein. Je pensais plus à on m'enlève ma tumeur.
On m'enlève ma maladie.
Ma maladie, ouais.
D'accord.
Donc là, j'étais avec ma maman et il y a Max qui m'appelle, qui était dans le tunnel du Prado et qui me dit j'arrive. Et moi, je disais, mais ils m'ont appelé pour partir, comme dans les films. Il me dit, mais non, attends-moi. Et je disais, mais non, je dois y aller. Enfin bon, bref, c'était assez mignon comme histoire pour aller se faire opérer, quoi. Et donc j'y vais. Et écoute, je me réveille plusieurs heures après. Hein. Donc c'était trop mignon parce que j'avais ma maman qui était là. D'accord. Au réveil. Il y avait Max, il y avait Hugo.
Ouais.
Et il y avait ma belle-mère, Lisa, qui était là aussi. Et ils étaient tous les quatre trop choux.
Ils attendaient
que je me réveille. Alors, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai été en salle de réveil. Donc, c'est un endroit, très sincèrement, que je...
Voilà. Disons que si sur TripAdvisor, on devait mettre une note à une salle de réveil...
Ça s'approcherait de zéro.
Voilà, c'est pas...
Voilà, hein, c'était pas top. Donc, je me réveille dans cette salle que j'ai vraiment en tête. Donc, forcément, t'es autour de plein d'autres personnes. Et puis, t'as des infirmiers qui sont autour de toi et qui sont à 1000 à l'heure. Et puis, toi, t'as l'impression d'être... à 2 à l'heure. Voilà, je me réveille. Et puis... Et puis voilà, je remonte en chambre et je vois ma petite famille qui m'attend, donc c'est cool. Franchement, je me sens pas trop mal. Hein. Et puis tout le monde part, sauf Maxou qui demande à rester dormir avec moi.
Tu devais rester combien de temps à l'hôpital ?
Une nuit.
Ah, c'est tout, c'est assez rapide en fait.
Et donc voilà, se passe quelques heures et je vais faire dodo. Et en fait, pendant la nuit, mon état se dégrade. En fait, j'avais une petite poche, c'est un drain, hein, c'est pour...
que le sang s'évacue.
Tout à fait. Et dans la nuit, ce drain se remplit. Et normalement, on va dire qu'en 24 heures, un drain suffit, sauf que j'étais à mon deuxième. Mm-hmm. L'infirmière commençait un petit peu à se dire, bon, y a des petits soucis là, je crois. Donc, elle a appelé le médecin interne qui lui a dit « Mais non, vous inquiétez pas, ça peut arriver, etc. »
Un gars super.
Il était très beau.
Ah oui, alors...
Si tu nous entends, Edouard.
On a oublié de raconter cette anecdote.
Oui.
La première fois que j'ai rencontré Manon et qu'on... Non, la première fois qu'on a parlé de ça, elle m'a sorti. Genre qu'elle se souvenait que ce mec était super beau.
Ah ouais, c'était...
Genre pour elle... Ça compte plus que l'anecdote en elle-même. Voilà, elle se souvient qu'il était très beau.
Il était très charmant.
Donc, peu importe ce qu'il allait dire...
On s'en fiche, on écoutait.
On l'aime.
Et donc, du coup, se passe cette nuit assez chaotique, disons-le. Hein, je perds en fait beaucoup de sang. Il me donne un cachet qui me fait m'évanouir. Enfin bon, c'est un peu la catastrophe, quoi.
Okay.
Heureusement que Max est là, parce que il y a un moment dans la nuit où je m'évanouis et je suis toute seule dans la chambre, quoi. Donc il appelle les infirmières, voilà. Donc c'était pas vraiment un moment fun. Le lendemain, ma chire donc vient me voir et puis constate les dégâts entre guillemets. Hein, et donc en fait j'avais fait un hématome.
D'accord.
Et assez vite, ils me disent qu'il va falloir retourner sur le billard, quoi, retourner en me faire opérer pour réouvrir et en fait enlever cet hématome.
D'accord. Donc là, tu repars au bloc.
Je repars au bloc, ouais.
Le lendemain. Et
le lendemain matin. Donc j'étais très affaiblie forcément puisque j'avais perdu du sang. Je retourne au bloc et voilà, et on me réopère. Sauf que j'avais tellement, et c'est là où donc vient ma petite anecdote et aujourd'hui j'en rigole, j'avais j'étais tellement fatiguée que j'avais même pas la force d'aller faire pipi avant d'aller à l'opération. Et en fait, quand je me suis réveillée, ça a été dramatique. Une envie de faire pipi de fou. Donc, je conseille à tout le monde de bien aller aux toilettes.
Aller bien faire pipi. Alors déjà, aller faire pipi tout court dans la vie quotidienne. Voilà.
Mais alors, avant de se faire opérer, aller faire pipi parce qu'après...
Tu l'as très mal vécu.
Ouais, je l'ai très mal vécu parce qu'en fait, tous tes organes s'arrêtent pendant le temps de
l'anesthésie.
De l'anesthésie, tout à fait. Et le temps que ça reprenne, c'est long. Et là, pour le coup, j'étais fatiguée, j'avais envie de faire pépé en me réveillant. Enfin, ben, bref, c'était pas du tout fun, mais j'ai fini par réussir. Et là, ouais, j'étais quand même j'étais dans les choux, quoi. J'étais dans les choux, vraiment.
Et là, tu retournes dans ta chambre ?
Oui, donc ils sont très contents de me voir.
J'imagine.
Et là, on va dire que s'ensuit quand même 2-3 jours de galère parce que j'ai du mal à reprendre mes forces.
Donc, ce qui devait être une nuit, finalement, s'est transformé en plusieurs nuits.
Oui, en 6 nuits en tout. Et en fait, ils se rendent compte que j'arrive pas à reprendre mes esprits toute seule. Et en fait, c'est du fait que j'ai perdu du sang, en fait. Donc, ça prend du temps, quoi. Donc forcément, j'ai la visite de mes amis, de ma famille. Donc ça m'a donné du peps. Je me suis opérée le lundi. Le mardi, je suis retournée au bloc. Et le jeudi, ils prennent la décision de me transfuser parce que voilà, j'arrive pas en fait à reprendre l'énergie nécessaire pour aller mieux.
D'accord.
24 heures après, j'étais déjà plus en forme, quoi.
T'es sur pied.
Voilà.
Comme un vampire, un peu.
Ouais, c'est ça.
Donc là, tu sors de l'hôpital.
Ouais, je sors de l'hôpital.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et puis, tu rentres à la maison.
Oui. Donc, j'ai une infirmière qui vient tous les jours me changer le pansement, etc. Forcément, le moment où je vois que j'ai plus de sein, hein, il est un petit peu compliqué. Mais
comment ça se passe d'ailleurs le moment où on réalise un petit peu que son corps a changé et que on peut le dire, ça laisse quand même une grosse cicatrice.
Tout à fait, oui.
Qui te rappelle pourquoi t'es là aujourd'hui aussi. Mais c'est un gros changement dans le corps d'une femme. Et,
tout à fait.
T'as mis du temps à t'en rendre compte. Comment ça s'est passé?
La première fois, c'était à l'hôpital. J'ai quand même demandé à regarder. Ouais, j'avais envie de regarder. Et puis après, ça a été quand même plus... À la maison, je me suis posée devant un miroir et je me suis observée. Donc forcément, la première fois, c'est assez étrange. Hein. On n'est pas... on réalise ce qui se passe. Mais quand même, j'ai mis du temps à vraiment me regarder. D'accord. À vraiment poser les yeux.
D'avoir un regard assumé sur la cicatrice.
Tout à fait.
Après, pour l'avoir vue, je la trouve extrêmement jolie.
Oui, oui.
Et très bien faite.
Ouais.
Ce qui peut être impressionnant, c'est... Bah, après, tu pourras le dire avec tes mots à toi, mais elle est assez, assez grande.
Oui, grande mais fine.
Mais très, très jolie, ouais. Très fine. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros bouleversement physique et psychologique, je pense. Donc,
oui, tout à fait.
Ça doit être un vrai passage après tout ça. C'est une vraie étape aussi.
Oui, il faut pas avoir peur de se dire que ça met du temps, en fait.
Tu as pris le temps qu'il te fallait pour...
Ouais. Pour me sentir bien et pour accepter, en fait.
Après, il y a ce truc aussi où tu étais déjà un peu bien dans ton corps avant.
Tout
ça.
Tout à fait, vraiment. Oui. Je pense que ça joue aussi.
Je pense que tu avais peut-être, tu étais presque préparée à accepter un nouveau changement. Donc, ça peut y faire aussi.
Tout à fait.
Je pense que tu es de caractère assez résiliente. Donc, je pense que ça y a joué dans l'acceptation de toi.
Et
quoi.
Puis, j'avais vraiment ce sentiment de me dire, c'est pour aller bien, quoi.
Et oui,
je passais le côté esthétique, entre guillemets, parce que voilà, ça reste de l'esthétique d'avoir de ça. Hein, de me dire, je suis... Enfin, j'ai plus ça en moi, quoi. C'était vraiment important.
Après ça, on te refait un diagnostic pour savoir si le cancer est parti, si tout va mieux. Et oui.
Alors du coup, après ça, j'ai eu un mois de repos.
D'accord. Ouais, vacances.
Et après, on entame les rayons.
Ah, c'est pas fini.
Oui, c'est pas fini, ouais. On entame les rayons et là, c'est 5 semaines. Donc, c'est tous les jours.
À l'endroit de la tumeur.
Oui,
de l'ancienne tumeur, de feu la tumeur.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, moi j'ai pris, comme j'habite à Arles, ceux qui connaissent un petit peu les environs, Marseille c'est pas très loin, mais c'est quand même pas à côté, donc j'avais quand même 1h15 de route pour y aller. Et les rayons, c'est tous les jours.
Ah d'accord.
Donc du lundi au vendredi, donc j'ai pris la décision.
Une vraie bonne tranche de plaisir.
C'est ça,
au
exactement.
Quotidien.
Donc j'ai pris la décision de faire ça dans un autre centre. Sur Nîmes, donc eux aussi, qui est plus près. Et là, j'avais 20-25 minutes de route. Et c'était quand même beaucoup plus agréable parce que, tu y vas en taxi. Hein, généralement, ce sont des personnes agréées qui...
C'est les taxis médicalisés.
Tout à fait. Donc moi, j'avais une super chouette conductrice qui, du coup, avec qui on a lié, on a fait un petit bout de chemin ensemble et ça fait du bien aussi de bien se sentir avec la personne qui t'amène. Enfin, moi, je trouve
ça... D'avoir un petit rituel quotidien.
Tout à fait, des gens chouettes, quoi. Donc voilà, faire 1h15 aller, 1h15 retour, je le sentais pas tous les jours, sincèrement. Donc, je suis allée sur Nîmes et c'était aussi un très, très, très bon centre.
Et les rayons, en fait, ça consiste en quoi exactement ?
Alors, les rayons...
Par rapport à la différence avec la chimio, par exemple.
Ouais. Alors, les rayons, c'est vraiment la petite, on va dire, la petite fin. Hein,
La petite touch finale.
Bah, pour mon cas, en tout cas, c'était ça. C'était vraiment au cas où, s'il reste quelque chose, on détruit tout. Voilà. Donc, en fait, c'est une espèce... Voilà, une espèce de machine... T'as l'impression d'être dans un film un peu futuriste. Pour le coup, dans mon cas, les rayons, donc c'était sur 5 parties. Enfin, ils ont délimité 5 points. Donc, je suis tatouée pour ça.
Ouais.
Donc, ils m'ont fait des petits points de tatouage là où ils doivent limiter les rayons, en fait. Parce qu'ils veulent délimiter une partie. Parce que c'est pas sans risque non plus. Parce qu'en fait, les rayons, ça brûle la peau. Hein, c'est le... c'est le but, hein, c'est de d'enlever les résidus,
les tissus.
Hein, les tissus, hein.
Donc, tu n'as pas de tatouage à part cela.
Tout à fait.
Quelle rebelle.
J'ai des petits points. Mais bon, franchement, ça ne se voit pas. C'est comme des petits grains de beauté. Donc, pour celles qui ne veulent vraiment pas se faire tatouer, au final, ça ne se voit pas du tout.
Et au pire, vous pouvez faire une petite constellation.
C'est ça,
ou un
exactement.
Petit jeu de relier les points pour plus tard, pour jouer sur la plage.
Exactement.
Et donc, une fois que les rayons sont terminés, comment tu te sens ?
J'étais tellement heureuse. Et le cachet, je l'ai débuté en novembre, bah à la fin des rayons en fait.
D'accord, c'est des cachets qui sont voués à quoi ?
Éviter les récidives. D'accord. Ça s'appelle le tamoxifène. Donc c'est en fait c'est un cachet qui va aller sur les oestrogènes et essayer de dire non.
On dirait presque un nom de groupe de rock. T'as écouté le dernier album des tamoxifènes ? Ah oh ouais, super.
Super chouette. Mais du coup, en fait, tu veux, c'est vraiment un cachet... qui doit être pris sur la longueur, quoi.
Oui, c'est un traitement de fond presque.
Exactement.
Outre l'aspect de la maladie et du traitement médical, à la maison, comment ça se passe ? Est-ce que du coup, tu es toujours aussi entourée, toujours aussi bien accompagnée ? Et
bien
surtout
sûr.
Dans ta relation de couple, bien que ça fasse très longtemps que vous soyez ensemble et que vous connaissiez...
Oui.
sur les doigts de la main, mais comment ça se passe avec Max et est-ce qu'il y a un vrai changement? Parce que j'imagine que forcément il y a quelque chose qui change.
Bien sûr. Okay. Bah, avant déjà, ça se passait très bien entre nous. On voulait se marier, donc ça allait super.
A priori,
ça allait super. Hein. Max, pendant l'annonce et tout le long des traitements, a été mon petit ange gardien. Hein. Il a vraiment été là pour moi. C'est lui qui m'a vue dans tous mes états. Hein. Il a vécu la maladie avec moi.
Mais
vraiment.
Il avait envie d'être là aussi.
Il avait envie d'être là, il avait envie de participer, il avait envie de... Je pense son côté un peu protecteur, d'être présent, de gérer.
Je pense qu'il voulait alléger ta douleur.
C'est ça, exactement. Donc moi, en fait, au final, à part être malade et faire les traitements, j'avais pas du tout ce côté... parce que quand même, c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de... Enfin, faut le dire. Hein.
Ouais, on oublie parfois cette facette des traitements, c'est qu'il y a beaucoup d'administratifs.
Tout à fait, vraiment, beaucoup. Et moi, pour le coup, j'ai eu énormément de chance parce que je me suis occupée de rien du tout, quoi.
C'est quand même cool.
Ouais, donc j'avais mon petit Maxou qui faisait tout ça, qui était très, très alerte aussi pendant les rendez-vous. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour les personnes qui sont malades en ce moment avec le Covid. Parce que aujourd'hui les rendez-vous c'est plus compliqué parce que on n'a pas le droit d'être à plusieurs. Moi j'allais dans la salle d'attente, j'avais Maxou et ma maman qui étaient avec moi et je sais qu'aujourd'hui c'est plus compliqué pour les malades. Donc j'ai une pensée pour eux parce que c'est encore un parcours différent. Et pour le coup, moi j'ai eu cette chance là quoi.
Aujourd'hui tu te rends compte que t'as
vraiment.
Oui, parce qu'on ne peut pas s'en rendre compte avant.
Tout à fait.
Tu ne t'attends pas à une pandémie en 2020, quand tu as fait ta chimio en 2019.
C'est ça.
Et pour rentrer dans des détails un peu perso, est-ce que ça influe sur ta relation de couple en tant que telle ? On va parler un peu de sexe aussi. Est-ce que le traitement, j'imagine, a forcément une influence sur... Le désir, on a beau s'aimer très très fort. Mmh. Je pense que la maladie prend une place.
Bien sûr.
T'es à trois dans ton lit. clairement, t'as quelqu'un entre toi et la personne que t'aimes. Oui. Donc, comment vous l'avez vécu, vous deux ?
Je spoil un peu, ils sont toujours ensemble. Alors, ça a été. À vrai dire, pendant le traitement, moi j'ai eu des moments de down parce que je sentais que mon corps changeait. Maxou, lui, était plutôt cool avec ça et à l'aise dans le fait que moi, j'étais fatiguée en fait. Hein, donc forcément, on va dire que c'était pas foufou. Hein,
oui, ta relation.
On a mis ça entre parenthèses.
Ouais, parce que c'est plus possible.
Non, c'est plus possible. Hein, et puis. Sincèrement, on n'a pas la force quoi aussi.
Ouais,
hein, de... Enfin, moi, en tout cas, je ne l'avais pas. Donc Maxou a été génial parce qu'il m'a beaucoup beaucoup épaulée, on a beaucoup parlé,
vous avez pu en parler finalement.
Tout
c'est
à
ça
fait.
Qui vous a
c'était très fluide. Hein.
Aussi.
Je me suis aussi renseignée. Hein. J'ai d'ailleurs je suis pas trop allée sur internet ou des choses comme ça parce que j'avais pas envie.
Quoi,
de...
Quoi, t'es pas allée t'auto-diagnostiquer sur Doctissimo?
Non.
Je suis un petit peu déçue.
D'ailleurs, j'avais interdiction d'aller sur internet. Surtout au début de l'annonce, Maxou voulait pas que j'aille et il a eu raison. Hein,
c'est
parce
tentant.
Que c'est tentant, mais c'est pas bien. C'est, oui. pas l'endroit où on va trouver des solutions. Hein.
Ah, j'ai un ongle incarné, tout va bien. C'est pas la peine de s'appeler.
Pour le désir, etc., bah, forcément, sincèrement, j'en avais pas.
C'est autant, je pense, psychologique que physique, finalement.
Tout à fait. J'ai quand même vu une psy pendant cette période qui m'a parlé, qui m'a dit que voilà, c'était normal et qu'il fallait pas que je me dise que j'étais différente des autres et que c'était un parcours qui va finir par s'arrêter. Hein. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est quand même étrange de voir son corps changer, de plus avoir envie de faire l'amour, quoi. Enfin, on est vraiment à plat.
Oui,
c'est le terme, hein, y a tout qui s'arrête, quoi.
Mais est-ce que, du coup, outre le désir, la proximité que tu as avec Maxou a changé? Parce que
non,
vous
pas
êtes
du
quand
tout.
Même hyper
au contraire,
câlin,
oui,
et vous
non.
êtes hyper proche. Et...
Oui, on était très câlins. Au contraire, pour moi, la maladie nous a vraiment renforcés.
Ça vous a rapprochés.
Oui, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, voilà, ça fait... un an, j'ai arrêté en novembre 2018, donc 2 ans. Et ça y est, ça va mieux. Je suis pas au top de ma forme, mais quand même, je commence à me sentir femme, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le terme
mais
à employer,
peux, si,
mais
si tu peux. Et en plus, je pense qu'on l'a pas abordé, mais il y a toute la question des règles.
Les règles, oui.
Parce que les règles s'arrêtent pendant le traitement, c'est un des effets
oui.
secondaires.
Tout à fait.
Est-ce que toi, elles ont... Parce que je pense que c'est un... J'imagine que c'est comme une petite victoire quand tu retrouves entre guillemets tes règles. Alors, on sait que c'est pas le truc qu'on préfère
non,
en tant que personne qui menstrue.
Ouais, c'est ça.
Mais toi, elles sont revenues au bout de combien de temps?
Alors, c'est un vrai sujet en ce moment. alors, moi, là, je suis dans un passage où, en fait, j'ai eu... Donc, ça fait... 2 ans et demi que j'ai arrêté la chimio, hein, puisque j'ai arrêté en août 2018. Et j'ai eu mes règles 2 fois seulement. Une fois, petite perte, donc c'était quand même une victoire. Hein.
Est-ce que vous avez fait une fête?
Presque. Et la deuxième fois, donc c'était en mars dernier, où là, j'ai vraiment eu mes règles. Mais depuis, en fait, je ne les ai pas eues de nouveau. Donc apparemment c'est normal, ça met du temps.
D'accord.
Après il y a un risque quand même de ménopause hein, pour les jeunes filles de 30 ans.
Après tout ça c'est un
facteur qui existe et qui voilà c'est donc ma oncologue m'a dit que c'était à peu près une jeune femme sur 10 à qui ça arrivait. Donc moi, j'ai fait tout récemment, j'ai fait une prise de sang qui montre que je ne suis pas ménopausée, mais que j'ai des taux qui sont quand même supérieurs à la normale. Donc c'est normal, hein, j'ai eu une chimio qui fait que bah, ça chamboule un peu les choses. Donc pour l'instant, j'attends patiemment
d'avoir
et j'ai hâte règles. D'avoir mes règles.
Oui, pour toi, du coup, c'est un signe très très fort d'espoir pour plein de choses. Il y a un rapport aussi avec la fertilité.
Tout à fait.
Et ça vous permettrait peut-être
d'envisager
d'avoir un enfant.
Tout à fait. Et pour le coup, donc moi, en fait, le type de cancer que j'avais ne me permettait pas de préserver mes ovules.
Oui, de les garder pour...
Dans le sens où certaines jeunes filles, avant de commencer la chimiothérapie, suivre un petit traitement, ils vont prendre les ovules de la jeune fille et ils vont les congeler. Et comme ça, si un jour elle veut avoir un bébé, elle les a, ils attendent patiemment. Mais moi, pour le coup, c'était pas possible.
D'accord.
Donc, par rapport à la fertilité, il y a plusieurs choses qui peuvent
être mises en place.
Ouais, merci. Être mises en place pour moi. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas ce que je... Enfin, j'ai pas envie d'avoir un bébé, mais je sais que c'est possible de façon naturelle. Déjà, c'est une bonne nouvelle.
Oui.
Et puis, il y a d'autres moyens, quoi. Il y a le don d'ovocytes, il y a la stimulation ovarienne, il y a l'adoption. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur ça, mais on sait qu'il y a des solutions.
Fermé à rien.
Tout à fait.
Optimiste.
va parler un petit peu de, bah, du coup, de la vie qui reprend son cours une fois qu'on a traversé cette espèce de trek médical.
Oui.
Et voilà, tu as un caractère très spécial, je trouve, et assez rare, qui fait que je trouve que tu as vécu ça avec beaucoup de philosophie et de... Et de recul, ouais. Tu es très positive quand t'en parles et c'est ce qui m'a poussée à te demander de venir parler dans mon micro. Et donc, comment ça se passe quand voilà, les traitements sont finis, la vie reprend son cours et tout devient un peu possible du coup.
Bien sûr.
Ton corps a retrouvé ses facultés, voilà, tu peux marcher, tu peux te déplacer. Qu'est-ce que tu as eu envie de faire une fois que tout ça est passé?
Alors, du coup, assez vite, le projet professionnel.
Ouais, t'as eu envie de reprendre le travail.
Reprendre le travail, parce que je suis quelqu'un d'actif, quand même. J'aime bosser, j'aime mon boulot, donc forcément, c'était une...
T'aimes voir des gens aussi.
J'aime voir des gens, enfin, voilà, c'était une des choses que j'avais envie de reprendre à temps plein. Alors forcément, ça s'est fait petit à petit, hein. J'ai pas repris le travail du jour au lendemain, hein. J'ai fait des petites semaines et puis après j'ai repris le temps complet.
Et tu te sentais comment?
Bah j'étais bien. Hein. Ah ouais. Bah ouais, parce que c'est des choses toutes bêtes, mais j'avais les cheveux qui repoussaient.
Oui, t'as eu les cheveux très 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 courts.
Oui. Ouais. J'avais le crâne rasé même à un moment.
Mais ils ont repoussé super.
Ils ont poussé très vite. Tu sens que tu guéris quoi quand tu retrouves ton corps d'avant. Et c'est fou la faculté que le corps a de reprendre ses droits. Enfin, je trouve ça fou quoi.
Oui, parce que je la vois. Hein, elle a des sourcils, très beaux sourcils, très
belle chevelure, pardon.
Belle chevelure.
Et du coup, donc projet professionnel, il est assez vite le projet restaurant traditionnel que j'avais avec donc ma famille. C'est un petit peu, on s'est dit, c'est peut-être pas la vie qu'on veut, quoi. Travailler le soir, travailler comme des fous. Enfin,
ça remet un peu ta vie en perspective, quand même.
Tout à fait. Ouais, vraiment.
Et ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et de plus.
On s'éclatait, Ouais, on s'éclatait au boulot, mais. C'était quand même des contraintes. Mmh. Et ma sœur a eu un petit aussi, donc ça a engendré des réflexions,
dirons-nous.
Et du coup, on a cherché un concept de restauration.
Qui collerait à votre mode de vie.
Tout à fait.
À ce que vous êtes.
Ce qu'on est. Donc, on a trouvé un joli petit restaurant. Donc du coup, en fait, le projet, c'était donc avec toujours ma famille. Hein.
Toujours les
on
mêmes.
On ne change pas une équipe qui gagne. Donc d'ouvrir un petit restaurant où la vie à côté serait plus simple. Voilà. Donc on a réussi, on est trop contents.
En
donc,
plein centre-ville.
En plein centre-ville. Et en fait, Maxou s'est joint à nous. Il faisait pas partie de la team. Voilà. Donc on est une team là. On est tous les cinq et on est heureux quoi, heureux d'aller bosser.
On va parler un petit peu du coup de tous les projets laissés en suspens.
Oui.
Parce que bah, du coup, on met sa vie entre parenthèses pour se soigner. Et donc voilà, les projets professionnels ont repris. Mais qu'en est-il du coup du couple et du mariage que vous avez non pas annulé selon Maxou qui est derrière moi, mais reporté parce que c'était inenvisageable de toute façon. Et qu'on ne connaît pas, alors je vais être très crue, on ne connaît pas l'issue
bien
de
sûr.
Son traitement non plus. On ne sait pas si ça va durer plus longtemps que prévu.
Exactement.
Donc, qu'est-ce que vous avez décidé de faire?
Alors, donc, on a reporté le mariage et on a décidé de se pacser parce que c'était important pour nous de...
Ça, c'était pendant ton traitement?
Ouais, pendant mon traitement.
Histoire de marquer le coup.
Ouais, et puis de dire un peu, quand même, c'est nous qui décidons, hein, c'est pas toi. Hein.
Et on s'aime.
D'abord, c'est pas le cancer qui va décider de ce qu'on fait. Hein. Donc on s'est paxé, c'était important pour nous deux.
Ça fait du bien.
Voilà, donc on l'a fait.
Okay.
Et 2019 est une nouvelle année, donc plus fun. Hein.
Oui, on peut le dire.
Et le projet mariage reprend, en fait. On se dit, bon, allez, c'est parti, quoi. Hein.
Alors, il faut dire que ce n'était pas juste un mariage, parce que je pense que pour vos deux familles, du coup, ce mariage s'est transformé en vraiment un événement. Je pense que pour tout le monde avait envie et besoin de son mariage. Je m'explique. Parce qu'ils voulaient être tous ensemble, parce qu'ils voulaient fêter le fait que tu sois en bonne santé, que vous soyez tous les deux en bonne santé et que vous viviez votre amour. En fait, je pense c'est que ça, c'était le mariage princier du sud de la France. Et j'ai adoré ça quand j'ai un peu découvert au fur et à mesure toute la famille et que j'ai découvert ta famille aussi. Je sentais très fort qu'il fallait que ça se fasse.
Oui, c'est vrai.
Mais... la suite de l'humanité n'a pas joué en votre faveur.
Tout à fait.
Car 2020 est arrivé et le mariage était toujours en préparation.
Tout à fait.
Et il était prévu pour quelle date ?
En fait, il a toujours été prévu à cette date-là. Octobre 2020.
Qu'est-ce qui s'est passé quand la pandémie est arrivée, que ça a chamboulé le mariage de beaucoup de gens dans le monde entier.
Oui,
et vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire du coup ?
Bon, déjà pendant tout le confinement, c'était un petit peu le flou total.
Oui, je sais qu'on est passé par on annule.
En fait,
pas.
Non.
On annule. À chaque fois, ça faisait on annule. On annule pas. Oui. On annule.
Et ça
a fait ça pendant plusieurs mois.
Hein. Bah ouais, du coup, pendant le confinement, ça a été un petit peu comme tout le monde, hein, compliqué de se projeter. Qu'est-ce qui va se passer en octobre ? On sait pas. Mais au final, ça s'est trop bien passé. On n'a pas senti plus que ça une contrainte de vivre en cette, enfin de vivre cet événement en période Covid, quoi.
Et le jour où c'est arrivé, parce que du coup j'ai rejoint Manon à 7h du matin ce jour-là. Et c'était fou. Je pense pour tout le monde, il y avait ta maman et ton papa, il y avait ta tante. Et je me suis dit, c'est fou parce que vous avez attendu ce jour tellement longtemps.
Tout à fait.
Et t'étais tellement calme.
Oui.
T'étais toute calme, t'étais heureuse, t'étais chill. Et on s'est préparé et t'étais là, quoi.
Ouais.
C'était un jour
presque normal. C'était trop chouette. C'était vraiment.
Il y avait beaucoup d'émotions.
Ouais, beaucoup d'émotions, une concrétisation depuis plusieurs années et puis le fait que ça y est, quoi, on tourne une nouvelle page, même si j'avais quand même tourné la page avec le nouveau restaurant, tout ça. Donc ça a été quand même une période de ma vie où on écrit quelque chose de nouveau. Mais le mariage, c'est une dimension encore plus puissante. Et puis entouré de nos amis, de notre famille, c'était... Je pense que ça a fait du bien à tout le monde, essentiellement à nous forcément, parce que on a réuni tout ce monde, mais aussi pour cette parenthèse en fait, parce que c'était pas une année facile pour tout le monde.
Bien sûr.
Voilà, et une petite parenthèse de bonheur.
Non, je parle personnellement, mais je pense que je suis pas la seule. On a vécu ça un peu comme une récompense.
La récompense 2020.
La récompense 2020 et de vous voir si heureux. Et j'ai l'impression que tout le monde était tellement heureux.
Ouais,
j'ai jamais vu un mariage comme ça où je pense que il y a ta maladie qui a fait pour beaucoup.
Je pense, oui.
Où les gens avaient envie de fêter le fait que vous soyez là ce jour-là, tous les deux. C'était
tout à fait.
Parce que c'était pas gagné.
Ouais.
Et c'était trop beau.
Voilà. Malgré tout ça, on a réussi et c'était le fin mot de l'histoire parce que c'était vraiment un mariage qui a été quand même très difficile de par la maladie déjà d'un report et en plus de ça d'une année où il y a une pandémie internationale, mais ça n'a pas enlevé la joie de célébrer cet événement, quoi.
Ça va m'amener à parler un petit peu d'aujourd'hui. Donc ça, c'était en octobre.
Oui.
Aujourd'hui, on est en fin 2020. On est très exactement le dernier jour de 2020. On a hâte que ça s'arrête. Et pour moi, c'est un peu symbolique de finir l'année avec toi et finir l'année avec ça. Parce que c'est une petite note d'espoir. Je pense que tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et à travers toi, j'ai quand même pris conscience de beaucoup de choses. qu'on ne peut pas savoir avant de rencontrer quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a été malade. Donc, ça m'a beaucoup appris et j'avais vraiment envie de transmettre ça aux jeunes filles et aux jeunes hommes qui m'écoutent. Comment toi, tu le vis aujourd'hui ? Comment ta famille le vit aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y a un message aussi derrière tout ce qui s'est passé ?
Moi, aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien dans ma peau, donc ça, c'est cool. Même si j'ai plus mon sein, j'ai l'impression d'être comme avant, en fait. Je m'adapte à mon nouveau corps. Et d'ailleurs, j'ai décidé, pour l'instant, de ne pas me faire reconstruire.
Donc, on peut reconstruire un sein. On crée une poche, en fait, dans laquelle on va mettre une prothèse. Et toi, tu as décidé de ne pas le faire.
Non.
On en a parlé longtemps au téléphone, je me rappelle. Oui. C'était une question que tu te posais vraiment ?
Ouais, c'est une question que je me posais vraiment. Je réfléchissais. Puis en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je réfléchis autant ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça qui fait que finalement, je suis bien comme ça, quoi ? J'avais pas envie d'entamer ce parcours médical, parce qu'il faut le dire, c'est très long.
C'est très douloureux aussi.
Très douloureux, très intense. J'avais pas envie de ça, quoi. Et en fait, je me dis, c'est pas parce que j'ai que 30 ans que je dois me faire reconstruire. Hein. Après, c'est propre à chacun.
Bien sûr, et c'est génial d'avoir le choix.
Et j'ai aussi le choix de me dire que dans 10 ans, peut-être que j'aurai envie. Et il faut être sûr de son choix. Il faut vraiment prendre le temps. Je pense que c'est hyper important. Moi, au début, quand ma chire me disait... prenez le temps, etc. J'étais plus dans le speed et dans le fait de dire non, je veux le faire. Et en fait, au final, le temps a fait que j'ai changé d'avis, quoi. Donc, c'est très important.
Moi, je trouve ça super courageux parce que on pourrait croire que on veut reprendre son corps presque d'avant.
C'est ça.
Sauf que toi, t'as appris à
vivre comme ça, quoi.
À apprivoiser ton nouveau corps et finalement, tu l'aimes comme ça.
Ouais. Je pense que je suis pas au 100%, mais
personne n'est à 100%.
Je pense, ouais. Mais en tout cas, je suis à l'aise. Et le truc qui est génial, c'est que Max est aussi à l'aise avec ça. Et
je pense qu'il aime ton corps encore plus que toi, tu ne l'aimes. Et c'est fort, je trouve, d'avoir choisi cette solution-là.
Ouais.
Et que c'est un beau message, je trouve, aussi pour toutes celles qui nous écoutent et qui écoutent ton histoire et qui peut-être vivent la même chose. Chaque personne est différente, vous avez le choix de faire ce que vous voulez.
Oui, c'est ce qui est important.
C'est votre corps.
Ouais.
Et vous faites les choix qui vous semblent bons pour vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes femmes et jeunes hommes qui nous écoutent ? C'est une maladie qui est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense.
Tout à fait,
On en parle trop peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre conscience de cette maladie pour soi, pour ses proches ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Moi, je pense déjà que c'est un petit peu la maladie de notre siècle. Hein. Ce qui est hyper positif, c'est que c'est une maladie qui se soigne très bien. Forcément, il faut que ça soit pris à temps, hein, on est bien d'accord, il y a toujours des exceptions. Mais c'est pas parce qu'on tombe malade à 27 ans qu'on va pas s'en sortir, quoi. Il faut vraiment... après, moi, ça a été aussi ma force, c'est que j'ai été hyper positive. J'y ai toujours cru, j'ai toujours su que j'allais y arriver et que j'allais combattre la maladie.
T'as jamais pensé à un moment donné
Si, j'ai eu des moments où j'étais.
C'est l'inconnu un peu.
Oui.
Est-ce qu'on se dit peut-être que je vais pas y arriver, peut-être que je vais pas m'en remettre.
Ça, c'est sûr, j'en ai eu, mais j'ai toujours parlé, j'ai toujours communiqué, j'ai toujours dit mes ressentis. J'ai rarement gardé les choses pour moi, et ça, je pense que c'est important de vraiment. Que ça soit pas un sujet tabou, quoi.
Oui, t'as pu partager...
Partager ses peines, ses peurs, ne pas hésiter à pleurer parce qu'on en a marre. Bien sûr que j'ai eu des moments où j'en pouvais plus. Je me disais, mais pourquoi ça tombe sur moi, quoi ? Enfin, j'ai rien demandé, tu vois.
Une phase d'injustice très, très forte.
Tout à fait. Mais vraiment, tu te dis, mais j'ai 27 ans, moi j'ai tous mes potes, ils sont en train de faire la teuf, là. Et moi, je suis sur mon canapé en train de comater parce que je suis en train de faire des chimios, enfin... pourquoi ça tombe sur moi. Donc oui, il y a des moments où j'ai été mal, mais dans l'ensemble, quand même, j'ai été hyper positive, j'avais le moral, et je pense qu'il faut essayer, en tout cas, même si c'est pas facile tous les jours, de se dire que voilà, on garde le cap. C'est important de...
Vous voyez pas, mais elle serre le poing.
On garde le cap. Non, mais je pense que ça fait partie de la guérison. Enfin, moi, j'y crois, en tout cas.
Ça t'a aidé beaucoup.
Ça m'a beaucoup aidé, et il faut surtout, surtout pas hésiter à se faire aider. Dans le sens où, par exemple, moi, je suis allée au comité de la Ligue contre le cancer. Ils m'ont proposé des activités. J'ai rencontré des femmes qui vivaient pas forcément le cancer du sein, mais d'autres cancers. Et on a parlé. Et t'es pas tout seul, parce que ça, c'est important. Je tiens quand même à le dire. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, ce sont aussi les jeunes filles qui ont vécu cette maladie à peu près au même âge que moi. Et je tiens quand même à citer deux personnes. C'est Lillison avec la BD La guerre des tétons, que je conseille vivement de lire quand on traverse cette maladie, et aussi de la faire lire à sa famille et à ses potes, parce que en fait, ça explique d'une manière très légère un sujet très grave. Et c'est joliment écrit, c'est des beaux dessins, c'est une belle BD.
Je vous mets tout ça dans la barre d'infos.
Ouais, vraiment. J'ai lu aussi un livre qui s'appelle Maligne. Donc là, pareil, c'est une jeune femme qui a été diagnostiquée très tôt et qui a écrit un bouquin. Et moi, ça m'a beaucoup aidée, parce que je me suis dit, mais en fait, je suis pas toute seule.
Bien sûr.
Et ça, c'est important.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se diagnostiquer tôt ?
Il y a l'auto-palpation qui est...
Alors, on vous invite à aller... alors, moi, je l'avais trouvé sur la Ligue contre le cancer, mais il y en a sur plein de sites. Il y a les gestes de l'auto-palpation qui sont très simples, que vous pouvez réaliser tout seul à la maison.
Tout à fait.
Et il me semble que ça, pour moi, c'est primordial.
Ouais, ça, c'est la première des choses, hein. Et puis après, forcément, si on sent une grosseur, une boule, quelque chose qui n'est pas normal, il faut aller chez le médecin et il faut demander... moi, pour le coup, c'était une échographie pour voir si tout va bien. Après, c'est sûr qu'on a toujours ce sentiment de se dire mais non, c'est pas ça.
Bien
mais
sûr,
bon,
mais
il faut quand même, voilà, faut quand même... ne pas hésiter, parce que ça fait partie des choses qui permettent d'aider à diagnostiquer un cancer du sein. Les personnes qui ont donc des cancers du sein dans leur famille, c'est vraiment important de faire les tests génétiques.
Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tout ça t'a appris au final ?
Alors du coup, il y a la partie hyper positive de me dire la vie c'est beau, la vie c'est chouette, faut profiter, faut vivre de l'instant présent.
Tu le ressens très fort, tu le ressens encore plus fort ?
Beaucoup plus. Ouais. J'étais pas de nature aussi positive et je suis quelqu'un encore aujourd'hui, même si ça l'est moins, mais un peu de stressé, un peu des fois de me dire pour des choses futiles, oh fais chier, tu vois.
Enfin, mais c'est bizarre, pour les choses futiles, oui, mais pour les trucs grave, non.
Ouais. Et par contre, voilà, ça m'a appris à, tu vois, me détendre sur des choses qui ne valent pas la peine de s'énerver prendre du recul, profiter, vraiment de savourer les choses simples aussi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Si des personnes nous écoutent et qui ont été malades, je pense qu'on s'aperçoit que la vie simple, en fait, c'est ce qu'on aime. Hein. C'est un petit peu ce qu'on recherche pendant les mois de traitement, de se dire en fait, je veux retrouver ma vie d'avant où tout était simple et facile, en fait. Et il faut pas hésiter à se dire que la vie elle est fragile, tout peut être chamboulé, et à la fois tu te dis aussi que tout peut revenir comme avant. Donc c'est un peu, tu vois, le côté perturbant de toute cette maladie, quoi.
De toute cette folle aventure.
De cette folle aventure qui, au final, a été hyper positive. Hein. J'ai grandi, j'ai renforcé beaucoup de liens familiaux, des liens d'amitié. Enfin, voilà, donc beaucoup de choses positives, même si forcément, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi des failles et c'est normal. Mais voilà.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse ?
Oui, je suis heureuse. C'est vraiment le fin mot de l'histoire parce que malgré cette folle aventure, je suis heureuse aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets. Voilà, je me suis quand même mariée après tout ça, donc c'est même par rapport à ma vie sentimentale, c'est une belle preuve d'amour d'avoir par rapport à Maxou d'avoir accepté tout ça et de me dire que bah, en fait ma vie elle est chouette quoi, même s'il y a eu tout ça, la vie elle est chouette.
Merci à Manon de nous avoir partagé cette histoire au coin du feu et qui, je dois le dire, m'a soutiré quelques larmes au montage de cet épisode. J'espère que comme moi cette écoute vous remplit d'amour, d'espoir et de compassion. Parce que s'autopalper c'est cool et que ça peut sauver des vies, rendez-vous sur le site très complet de la Ligue contre le cancer, ligue-cancer.net. Et je vous mets les liens des ouvrages dont parle Manon en barre d'infos. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en vous abonnant à mon super Instagram Raccoon Club Podcast, on vient de passer les 1000 raccoons, et surtout en partageant cet épisode s'il vous a plu et si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.